Espace 2, Annick Chuin.
Bonjour. Il y a tout juste 150 ans, le 24 juin 1859, le Genevois Henri Dunant découvrait horrifié le champ de bataille de Solferino, une émotion intense qui le poussa à créer une œuvre de secours aux blessés de guerre qui deviendra, quelques années plus tard, la Croix-Rouge. Bienvenue dans les temps qui courent. La Croix-Rouge, qui fête cette année 2009 un triple anniversaire. Les 150 ans de la bataille de Solferino, donc, les 90 ans de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et les 60 ans des 4 conventions de Genève, véritable fondement du droit international humanitaire. Tout cela n'aurait pas existé sans les idées ambitieuses et visionnaires d'un homme, Henri Dunant. Laurence Di Félix rencontre son dernier biographe en date, l'historien, essayiste et romancier Gérard Jäger, qui vient de publier aux éditions L'Archipel, Henri Dunant, l'homme qui inventa le droit humanitaire.
Première chose qui frappe à la lecture de votre biographie sur Henri Dunant, c'est la multiplicité des facettes de cet homme assez incernable. Est-ce qu'à vos yeux, il y a plusieurs Henri Dunant ?
Je crois qu'il y a un Henri Dunant de la lumière et un Henri Dunant de l'ombre. Alors de lumière, on sait pourquoi, parce qu'on a une idée assez précise du fondateur de la Croix-Rouge, un peu moins du premier prix Nobel de la paix, et on ne sait quasiment rien, le grand public à tout le moins, de ce qui a précédé des années d'enfance, de formation, de jeunesse, ses déboires financiers notamment, peut-être ses peines de cœur aussi, enfin toute une vie d'homme que l'on oublie derrière l'image et l'icône d'Henri Dunant. Et c'est un petit peu dommage, donc ce que je voulais faire avec cette biographie, c'est bien montrer que c'était avant tout un homme avec ses faiblesses, avec ses besoins, je dirais, psychologiques. Un homme qui a cherché sans doute toute sa vie à mourir en paix avec lui-même.
On va essayer de le cerner, donc, cet homme. On peut commencer par le début, peut-être. Il est né en 1828 à Genève. Dans quel milieu est né Henri Dunant ?
Alors ça aussi, c'est quelque chose de très important, parce qu'il est né dans un milieu de la bonne bourgeoisie, dirions-nous aujourd'hui, d'une famille un peu disloqué, je dirais, pas très uni dans le sens où le père était un commerçant et un homme d'affaires, mais qui était très souvent à l'étranger. Et donc, il a été essentiellement élevé par sa mère et par sa famille maternelle, les Colladons. Cet enfant a une formation qui va expliquer un grand nombre de ses actes et parfois aussi du prosélytisme qui sera le sien dans la charité, parce que c'est essentiellement un calviniste. C'est un garçon qui est né avec le culte du don de soi.
Il y a une part de fondamentalisme religieux dans cette famille de sa mère, la famille Colladon.
Oui, absolument. C'est d'ailleurs vers l'âge de 18 ans qu'il entre dans ce groupe de pensée qui est l'Église du Réveil. C'est une branche fondamentaliste, vous avez raison, du calvinisme qui recherche les origines de la parole de Dieu et qui est, dirions-nous aujourd'hui, assez étroite. Et ce prosélytisme qui sera le sien pendant des années provient des prêches du pasteur Gossen, très connu à Genève à cette époque-là. C'est un pasteur français qui vient porter la bonne parole dans les familles calvinistes de Genève. Et Henri Dunant sera effectivement très influencé par ce personnage et par cette idée-là. Au-delà, bien sûr, il s'abstiendra de ce prosélytisme calviniste, puisqu'on sait qu'au bout du compte, sa démarche, c'est l'universalité de l'homme dans la souffrance, c'est l'absence de clivage. Tutti fratelli, diront les femmes de Castiglione après la bataille de Solferino. Donc finalement, tous unis dans la souffrance, quelles que soient les origines, pour lui, l'essentiel, c'est de soigner la souffrance. Donc ce prosélytisme des premières années va s'ouvrir très largement et c'est très probablement grâce à ses voyages au Maghreb, en Algérie et en Tunisie, où il apprendra à connaître les autres cultures et les autres confessions, notamment musulmanes, que sa pensée s'ouvrira très probablement à ce moment-là.
Alors justement, avant de passer à cette période algérienne, puisque Henri Dunant a eu une phase de sa vie où il a vécu là-bas en tant que colon suisse en Algérie, et on peut parler brièvement de sa scolarité, c'était un très mauvais élève, il a été viré du collège Calvin.
Alors, un très mauvais élève, je ne sais pas, on n'a pas tous les détails. Mais enfin, toujours est-il que ses professeurs ont dit à ses parents qu'il valait mieux qu'il cesse de fréquenter le collège. Le collège Calvin, il y est entré à l'âge de 10 ans, il en est ressorti à l'âge de 14 ans. Seule l'instruction religieuse l'intéressait, ce qui corrobore ce que nous disions précédemment. Et puis ensuite, alors, il est entré à la banque Sauter et Lulin. Et c'est là qu'a commencé sa carrière financière, pourrions-nous dire. Et peut-être là aussi que se trouve le début de ses malheurs financiers. Mais aussi, s'il n'y avait pas eu cette expérience, jamais il ne serait devenu l'homme de Solferino, l'homme de Castiglione et de la Convention de Genève.
Alors pour comprendre cet enchaînement, il faut dire que pour sa banque, il part en Algérie.
Il part en Algérie parce qu'il y a une colonie suisse qui s'est créée. Et donc la banque a financé un certain nombre d'exploitations en Algérie. Comme il était employé de cette banque, il a été envoyé dans la région de Sétif pour contrôler un peu, si vous voulez, la création de cette colonie, d'organiser les infrastructures sur place, de faire venir d'autres colons de Suisse romande, notamment de Fribourg, Genève, Neuchâtel, de manière à exploiter totalement ces nouvelles terres, mais pour le compte de la banque. Et puis, quelques années plus tard, là on est dans les années 53-54.
Ça veut dire qu'il n'a pas 30 ans ?
Il a à peine 30 ans. Lors de son deuxième ou de son troisième voyage, l'idée lui vient de demander des terres à titre personnel au gouvernement français. Il se dit qu'après tout, il peut en parallèle gérer les affaires de la banque et des colons suisses, mais également créer une exploitation personnelle.
Monter son affaire.
Ce qu'il va faire, effectivement, et il crée la société des moulins de Mons-Gemina. Et là, il essaye finalement de cultiver le blé, de le moudre, de le vendre sur place, puis ensuite à la France et à ses armées lorsqu'elles partent en campagne. Donc, il crée une affaire qui marche relativement bien, sauf qu'il n'a pas assez de terre où se trouvent des sources, des puits. Et donc, il va passer plusieurs années à réclamer au gouvernement français de nouvelles terres irriguées, de manière à pouvoir rembourser ses créanciers qui ont largement financé son entreprise. Et c'est là que va intervenir le problème, parce que n'obtenant pas suffisamment d'eau, ses affaires vont petit à petit péricliter. Il va décider de partir pour la France pour aller au plus haut niveau de l'État qu'émander ces fameuses sources. Donc il décide de monter à Paris pour voir Napoléon III. Seulement lorsqu'il entame son voyage, il apprend, et on est en 1859, que Napoléon III est parti en Italie faire campagne contre les Autrichiens. Alors il lui court après, si l'on peut parler un langage un peu plus populaire, et ça va durer quelques mois. Alors il quitte Genève, sachant qu'il est en Italie, évidemment il ne part pas à Paris. Et il descend donc dans la région du lac de Garde, où les troupes franco-sardes qui sont alliées contre les armées d'occupation austro-hongroise dans cette région de l'Italie. Il part début juin. Il se rend sur le terrain, mais c'est difficile parce qu'évidemment, il roule en voiture à cheval. Il doit faire plusieurs étapes, plusieurs arrêts. Donc, il réussit à rejoindre non pas Napoléon III, qu'il finalement... Il ne verra jamais sur place, mais beaucoup plus tard après la bataille. Mais il rencontre son quartier général et ses maréchaux. Pour l'instant, n'oublions pas que sa seule préoccupation, c'est de le rencontrer pour ses affaires. Et on lui dit, vous pourrez le rencontrer probablement du côté de Solferino. Il s'y rend donc. Mais contrairement à ce qu'on pense, Henri Dunant n'assiste pas à la bataille même de Solferino. Il croise les armées de Solferino, mais après la bataille, c'est-à-dire après la prise de la fameuse colline de la Spia d'Italia, qui est la tour très ancienne sur le promontoire de Solferino. Et quand on a pris cette tour, on est maître de la région. Les voltigeurs français de Napoléon, alliés aux Sardes et Piémontais, remportent cette victoire. C'est une débâcle militaire pour l'Autriche. Et lorsque Dunant arrive sur place, son constat, ce n'est pas celui d'une grande victoire, c'est celui de la souffrance. Parce que jamais jusqu'alors, et la presse ensuite en parlera, les historiens reviendront là-dessus, Solferino fut l'une des batailles les plus meurtrières de tous les temps.
On compte 30 000 blessés sur le champ de bataille.
Au départ. Ensuite, ça va être exponentiel. D'autant que les blessés, les mourants, étaient souvent laissés sur place, sans soins, faute d'organisation. Et ce dont se rencontre Henri Dunant, c'est de la mésorganisation de l'assistance médicale sur les champs de bataille.
Alors concrètement, cette fin juin 1859, Henri Dunant, qui est sur place, va commencer à s'exciter dans tous les sens pour demander à des gens, des civils de la région, de s'organiser pour aller chercher ces pauvres blessés sur le champ de bataille et les soigner.
Tout à fait. Cela dit, il faut mettre un bémol. Lorsque l'on a tendance à dire « Henri Dunant a tout organisé parce qu'il n'existait rien », c'est tout de même faux. D'abord parce qu'il y avait un service minimum des armées elles-mêmes, mais cela dit, les armées ne s'occupaient que de leurs propres hommes la plupart du temps et laissaient mourir les autres. Et puis aussi, il faut ajouter que les populations étaient tout au service des hommes qu'elle trouvait dans ses campagnes, dans ses maisons, dans ses champs. Et ses habitants vont quand même commencer à faire ce qu'ils peuvent, et les femmes notamment. Donc Henri Dunant, voyant cela, va d'abord aider ces femmes qui ont pris l'initiative. Et puis il se rend compte que les blessés sont acheminés vers la plus grande ville voisine, qui est Castiglione. Et cette ville, alors, elle, est assez bien organisée. Il y a des prêtres, notamment, qui mettent leurs églises à disposition, qui soignent comme ils peuvent, etc. Et lorsqu'Henri Dunant arrive à Castiglione, parce qu'il se rend compte que c'est là qu'il y a du travail, il se met d'abord à la disposition des autres. Ça n'est pas le chevalier blanc, si vous voulez, qui tout d'un coup de baguette magique, va dire « c'est comme ça qu'il faut faire, écoutez-moi, ce n'est pas un... il ne se prend pas pour le messie ». C'est un homme assez humble. Et puis ensuite, se rendant compte qu'il a un certain ascendant, ou du moins que sa logique d'organisation est efficace, il va prendre petit à petit les choses en main et les gens vont se rallier à lui. Bon. Donc ce n'est pas une dictature de l'entraide humanitaire, c'est vraiment quelqu'un qui s'est totalement mis au service des autres et qui petit à petit a tissé sa toile pour construire un système. Et dans son idée, la Convention de Genève, qui naîtra quelques années plus tard, est le fruit de cette réflexion. Comment faire pour anticiper les problèmes ?
Atténuer le sort des victimes, ça va devenir le véritable cheval de bataille de Dunant après cet épisode de Solferino. Donc il revient à Genève et il va là essayer de mettre en place, de réunir des gens pour créer un système efficace et permanent.
Voilà. Alors c'est là que l'originalité intervient. Il se dit, après tout, si l'on est bien organisé au départ, c'est-à-dire avant la bataille, on va gagner du temps et on va pouvoir développer une assistance efficace. Donc il rentre effectivement à Genève et pendant 2 ans, il va rédiger un texte qui est fondamental. C'est le souvenir de Solferino. C'est un rapport qu'il donne. Mais un rapport tellement vrai, tellement proche de la vérité, que ce rapport va épouvanter le monde entier. Parce que le monde entier n'avait pas les yeux sur la bataille et sur ses conséquences. À cette époque-là encore, on se disait « seule la victoire est jolie ». C'est un état d'esprit, et c'est cet état d'esprit aussi que Dunant a envie de changer, de montrer que non, la guerre n'est pas jolie, qu'elle est très sale, mais que ne pouvant pour l'instant pas faire autrement, eh bien, soignons les hommes blessés et souffrants. Donc il écrit ce livre qu'il va distribuer à ses frais. Il n'a pas d'éditeur. Il fait imprimer à Genève son texte et il l'envoie. Il l'envoie à toutes les cours d'Europe pour essayer de dénoncer cette souffrance qu'il a vue et qui l'a choqué. Et évidemment, il va y avoir un répondant quasi immédiat. Mais le problème pour lui, c'est qu'il va très vite se rendre compte qu'un homme seul comme lui ne peut pas influencer l'histoire s'il n'est pas soutenu par une structure. Et c'est là que Genève intervient.
Donc il va créer un comité, essayer de rassembler des personnalités capables de porter ce message de manière internationale.
Exactement. Cela dit, ce n'est pas lui qui appelle à l'aide les institutions existantes et charitables, dont Genève d'ailleurs se fait une gloire. C'est une institution dirigée par Moynier, dont le nom sera célèbre aussi, associé à Henri Dunant, mais dans une rivalité quasi permanente. Et cette société d'utilité publique de Genève, que Moynier dirige, va intervenir auprès de Dunant et lui dire « on aimerait vous rencontrer pour que vous nous parliez de votre projet ». Et ainsi, 5 membres se forment. Il y a donc Moynier, Dunant, il y a 2 médecins, Appia et Monnoir, et le célèbre, très célèbre en Suisse, général Henri Dufour. Et donc ces hommes-là vont chercher à retenir l'attention des cours d'Europe. Et comme c'est une institution officielle, ils pensent évidemment avoir beaucoup plus d'influence qu'un homme seul. Seulement, Dunant se rend compte que lui est peut-être le meilleur ambassadeur de cette idée qui est la sienne tout de même. Et puis il est témoin aussi. Donc il va faire parallèlement à ça un tour d'Europe, tout seul, pour influencer directement les gens et surtout, parce qu'il y a un programme au départ que la Société d'utilité publique a rédigé avec Dunant sur les moyens à mettre en œuvre pour justement arriver à cette anticipation de l'organisation des services sanitaires. Mais Dunant, lui, a envie d'y ajouter autre chose. Mais personne n'en veut encore au comité Genevois, c'est la neutralité. Parce que Dunant sait qu'à terme, seule la neutralité va permettre d'opérer dans n'importe quel camp, sans idéologie, ni philosophique, ni confessionnelle, ni politique, etc.
Pourquoi les autres membres du comité ne veulent pas de cette neutralité dans un premier temps ?
Ils n'en veulent pas dans un premier temps parce qu'ils pensent que trop demander à la foi va nuire à l'idée. Mais Dunant, il veut aller vite, il veut faire les choses tout de suite, quitte après à remettre de l'ordre dans tout ça. Mais il réussit, et c'est ça qui est formidable. Et probablement qu'on lui en a aussi voulu d'avoir fait un peu bande à part.
1963, c'est la création officielle de ce comité.
Alors en fait, en 62, si je récapitule très vite, en 62, il y a la rédaction de cet ouvrage. Début 63, le comité des cinq se réunit. Courant 63, au palais de l'Athénée à Genève, a lieu ce qu'on appelle la conférence internationale de Genève, qui est une conférence préparatoire. La plupart des pays qui vont signer la première convention de Genève un an plus tard sont déjà présents. Et en 64, le 8 août 1864 très précisément, est signé ce qu'on appelle encore aujourd'hui la première convention de Genève qui s'occupe du sort des blessés militaires lors des guerres à venir. Enfin, le terme n'est pas guerres à venir, mais c'est ainsi dans l'esprit de tous les signataires.
1864, on est un peu à l'apogée de cet Henri Dunant qui arrive à ses fins. Trois ans plus tard, 1867, c'est la débâcle.
C'est absolument terrible pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant toute cette période, c'est-à-dire entre 59 et 64, 65, il ne s'occupe que de son affaire sanitaire, humanitaire. Et il en oublie ses affaires algériennes. Et pendant ce temps-là, ses créanciers perdent de l'argent. Une faillite va donc être déclarée. Et ça va durer pendant des années. Et il est tellement poursuivi, tellement déprimé, parce qu'il pense tout de même que ce qu'il vient de faire pendant quelques années va lui donner quelques arguments, ou du moins une aura qui pourra le défendre dans son argumentation, en disant « finalement, oui, d'accord, j'ai été un peu négligent là-dessus, mais je vais rattraper les choses ». Personne ne veut l'écouter. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'une fois la faillite déclarée, Dunant doit quitter Genève pour fuir ses créanciers qui sont prêts à lui prendre tout ce qui lui reste, et c'est-à-dire plus grand-chose, parce qu'il a beaucoup investi dans le domaine humanitaire qu'il a créé, il a beaucoup dépensé d'argent, il a voyagé, il a imprimé ses livres et ses tracts, enfin bref, il n'a plus un sou vaillant. Pour ne pas être emprisonné, il quitte la Suisse, mais il y aura un petit noyau de créanciers, des jusqu'au boutistes, qui voudront absolument avoir sa peau. Et puis il y a parmi ces gens-là, les membres aussi du comité des cinq, qui ne vont pas l'aider du tout. Certains vont l'accabler, d'autres se retirer, ne rien dire et laisser faire. Et ça va être pour lui un cruel désenchantement. Et donc il part, il s'exile, il va en France, il s'installe à Paris, alors il est dans une situation financière dramatique. Alors évidemment, le cinéma, la légende a accentué un peu cela aussi. Il se trouve que pendant la guerre franco-allemande de 1870 et la Commune en 71, il fait une rencontre décisive pour sa vie personnelle. C'est une femme, une veuve, Léonie Kastner, qui est une femme très dévouée aussi dans les œuvres humanitaires, qui va lui donner des petits travaux à faire, du secrétariat. Et puis il gagnera un petit argent comme cela parce qu'il ne veut absolument pas être dépendant totalement de cette personne. Et ces années-là sont extrêmement difficiles. Elles vont aller de 1870 à peu près jusque vers 1880-85. Et là, il va voyager avec la mansuétude de cette femme. Il va se faire quelques amis de par le monde, en Allemagne notamment, où un certain docteur Müller va écrire la première histoire de la Croix-Rouge et qui va commencer par réhabiliter l'image d'Henri Dunant.
Il faut dire que si on a tellement besoin de le réhabiliter, c'est que les quatre membres restants du comité des cinq du départ ont vraiment tout fait pour le griller et même le faire oublier par rapport à la fondation de ce comité.
Tout à fait, le faire oublier, c'est cela. Et il ne voulait pas, c'est l'argument officiel du comité, que la situation financière et judiciaire d'Henri Dunant entache l'image de l'institution qui venait d'être créée.
Donc on va jusqu'à gratter son nom sur les actes fondateurs.
Complètement. Il disparaît totalement. Et pour lui, c'est absolument terrifiant. Et c'est ce que nous disions en début de conversation. À partir de ce moment-là, il va passer plus de 25 ans à tenter de réhabiliter son image et de se réhabiliter avec lui-même. Il va s'établir dans la petite ville appenzelloise de Heiden, au-dessus du lac de Constance. Et c'est pendant cette période qu'il va basculer d'une certaine façon de la fondation de la Croix-Rouge et de l'œuvre instantanée, je dirais, de l'entraide, à quelque chose de beaucoup plus philosophique. Il va devenir pacifiste et il va chercher à expliquer que l'œuvre de la Croix-Rouge est un marchepied pour la paix à venir dans le monde.
C'est dans cette phase-là de sa vie, Gérard Jäger, dans cet exil dans le canton d'Appenzell, que vous le mettez en scène dans votre ouvrage « Henri Dunant, l'homme qui inventa le droit humanitaire ». Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là de sa vie que vous vous intéressez à lui ?
Alors, la construction du livre est faite ainsi, de 4 jours d'entretien qu'il donne à un journaliste saint-gallois, Georg Bomberger, qui l'a retrouvé et qui a été fort surpris, d'ailleurs, comme beaucoup de monde autour de lui, qu'il fût encore en vie. Car tout le monde le croyait mort, son nom avait disparu des mémoires. Et tout à coup, il apprend qu'il est hospitalisé, puisqu'il vit finalement dans un hôpital régional, celui de Heiden. Parmi d'autres vieillards malades et grabataires, lui est un peu dépressif quand même. Et ce journaliste, apprenant sa présence à Heiden, Saint-Gall est tout à côté, il saute dans un train et monte à Heiden pour essayer de le rencontrer et de l'interviewer.
Vous dites qu'il est dépressif. On a beaucoup écrit sur les différentes pathologies qu'on pourrait lui diagnostiquer. Oui. On a dit qu'il était fou, qu'il se sentait élu de Dieu, qu'il était maniaco-dépressif avec troubles de la persécution. Enfin, il y a eu même tout un colloque dans les années 80 à Genève sur les différents diagnostics possibles. Vous le voyez simplement comme quelqu'un de sombre.
Je ne suis pas médecin. J'ai beaucoup lu et les documents dont vous venez de parler, évidemment. Il me semble que cette dépression est naturelle. C'est une logique historique, chronologique. On en a parlé, on voit très bien comment il arrive à cette situation dramatique à ses yeux. Et puisque sa détermination est de se réhabiliter, bien entendu que cette situation nouvelle qui se présente à lui grâce à l'arrivée de ce journaliste va changer sa vie et va lui redonner une certaine confiance. Et quand l'on analyse le registre de l'hôpital de Heiden, en face de son nom, le médecin, très régulièrement, note sa pathologie et son évolution. Et on se rend compte qu'au fil des mois, au fil des ans, Henri Dunant est de moins en moins malade. Alors, il est peut-être fou dans le sens où il n'est pas comme tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, en 1901, on l'a dit en début d'entretien, il obtient le premier prix Nobel de la paix. Donc il va accéder à une certaine notoriété, celle à laquelle il aspirait. Alors, bien entendu, cette folie, c'est celle d'un homme accroché à une idée fixe, qui n'est pas seulement celle d'être réhabilité, certes elle est majeure, mais lui maintenant comprend que son œuvre ne suffit pas. Ou du moins qu'elle doit être un palier, une façon d'arriver à quelque chose de quasi définitif. Alors il se met effectivement pendant 10-20 ans à étudier les Écritures, à étudier l'Apocalypse de Saint Jean, à faire ces fameux diagrammes chronologiques et symboliques
qui sont
des tableaux extraordinaires. Il y en a affichés à Haydn, par exemple, dans le musée Henri Dunant, où l'on voit qu'il n'a qu'une obsession, c'est d'essayer de comprendre le destin de l'humanité à travers la lecture de la Bible et des Écritures. Alors évidemment, ça ne rend pas particulièrement joyeux, et c'est vrai qu'on peut dire à ce moment-là que c'est un homme plutôt pessimiste qui mourra en 1910 plutôt qu'un homme optimiste.
Gérard Jäger, les 40 dernières années de la vie d'Henri Dunant, il ne remettra plus les pieds à Genève.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un lycée Henri Dunant et une école de culture générale Henri Dunant. Est-ce que pour vous, l'histoire d'Henri Dunant, c'est un bel exemple de récupération historique ?
Il y a probablement un peu de cela. Henri Dunant, nous disions aussi tout à l'heure, c'est de l'ombre et de la lumière. Pendant très longtemps, après l'avoir oublié, on a récupéré la lumière et on s'est projeté dans sa lumière. Alors effectivement, on l'a récupéré. C'est très humain, c'est très logique. Je crois qu'aujourd'hui, on est plus équitable. On essaie de comprendre ce que nous faisons ensemble ici, qui était véritablement Henri Dunant, qui étaient les gens qui ont gravité autour de lui. Et ça ne fait pas de tort à l'institution de la Croix-Rouge. Je crois même que c'est très bénéfique de savoir quels sont les pleins et les déliés de cette histoire, de savoir qu'Henri Dunant n'est pas un saint, que c'est un être humain comme tout le monde, souffrant comme les blessés qu'il a vus souffrir, d'une souffrance psychologique probablement tout aussi grave et tout aussi difficile à surmonter. Et le message, c'est ça, c'est probablement de rappeler que l'on est tous potentiellement des Henri Dunant, que lorsque l'on agit, on ne connaît pas toujours les conséquences de ses actes, en bien ou en mal. Mais Dunant, lorsqu'il est parti à Solferino, ne savait pas qu'il deviendrait l'Henri Dunant que l'on célèbre aujourd'hui. Il y est allé, il a su prendre sa route et au carrefour choisir son chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'il faudrait retenir.
La route d'Henri Dunant, racontée par Gérard Jäger dans un ouvrage paru aux éditions L'Archipel, Henri Dunant, l'homme qui inventa le droit humanitaire, une biographie en sorte d'amuse-bouche avant les festivités, livres et nombreuses manifestations encore à venir cette année. Nous y reviendrons en automne certainement. Cette émission s'achève, elle vous était proposée par Laurence Di Félix avec Alain Perrotet, Nicole Corpato et Annick Chouin. Je vous donne rendez-vous demain et nous retrouverons Nicole Duparc. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion à 19h30. Vous pouvez commander les CD de nos émissions au 026 323 24 24. Vous pouvez également nous écouter sur internet lestempsquicourentenunmot.rsr.ch ou encore télécharger les entretiens qui vous intéressent.
Espace 2.
L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours, dans les temps qui courent, sur Espace 2, à 8h30 et à 19h30.